Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Georges Bion à ce micro pour Le Monde aujourd'hui au sommaire de cette édition du mardi 29 août 2023. C'est le statu quo au Gabon, toujours pas de résultat après les élections de samedi. L'opposition amenée par Albert Ondoussa affirme avoir remporté la présidentielle. Au Niger, bras de fer entre Paris et Niamey avec le refus de la France de retirer son ambassadeur.
La posture de la France dans ce contexte renforce la perception négative qu'elle s'est créée depuis certaines années. Dans la région.
L'ancien ambassadeur du Bénin à Washington, Omar Haruna, à suivre dans la partie magazine. Visite aujourd'hui du chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, en Égypte, son grand allié pour son premier voyage à l'étranger depuis le début du conflit au Soudan. En Éthiopie, les affrontements ont fait 183 morts depuis le mois de juillet. Ici aux États-Unis, la tempête tropicale Idalia s'est transformée en un ouragan potentiellement extrêmement dangereux. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le Gabon, toujours dans l'attente des résultats des élections. Hier, la coalition Alternance 2023, conduite par son leader Albert Ondoussa, a revendiqué la victoire à la présidentielle alors que le centre gabonais des élections continue de compiler les données. Notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang Nze, décrit ici la confusion ambiante de la capitale gabonaise.
C'est la grande ruée des Libreville vers les transports en commun. Le couvre-feu entrant en vigueur dès 19h. Le moindre retard sur la route peut coûter cher à l'usager devant les barrages policiers. Alors, pour éviter de payer une amende dont le montant se situe entre 10 000 ou 25 000 francs CFA, on se bouscule devant les arrêts bus pour la grande majorité des populations non véhiculées. Un contexte de branle-bas très stressant pour ceux qui habitent les secteurs excentrés du centre-ville. Dans l'attente des résultats des élections générales de samedi dernier, sachez que les réseaux de communication restent toujours bloqués. Les médias étrangers également, donc France 24, TV5 Monde et RFI aussi. Alors, des ménages n'étant plus interconnectés, le risque devient alors grand que la rumeur prenne le dessus sur la vraie information. Le centre gabonais des élections n'a toujours pas dit à quel moment il délibère sur les opérations de vote du Gabon et de sa diaspora.
Libreville, Ismaël Obiangé pour VOA Afrique.
Au Mali, l'ex-rébellion Touareg accuse l'armée de nouvelles frappes aériennes sur ses positions. Les groupes armés s'opposent à ce que les camps des casques bleus soient transférés à l'armée malienne. La remise du camp de Ber à l'État à la mi-août a donné lieu à des accrochages entre l'armée et la coordination des mouvements de la Zawad. Le gouvernement malien a appelé hier les groupes armés signataires de l'accord de 2015 à reprendre le dialogue. La CEMADI considérait que Bamako a définitivement et délibérément pour une escalade vers des hostilités ouvertes aux conséquences obligatoirement désastreuses. Les Nations Unies ont indiqué aujourd'hui que la crise politique au Niger et les sanctions imposées à la suite du coup d'État risquent d'avoir des effets humanitaires catastrophiques. La crise politique en cours génère de l'incertitude et de l'inquiétude alors que le pays subit des attaques répétées de la part de groupes armés près des frontières avec le Mali et le Burkina Faso, a déclaré le représentant du HCR au Niger, Emmanuel Gignac. Il a également souligné que la fermeture des frontières et les sanctions prises par la CEDEAO ont fait grimper en flèche les prix des denrées alimentaires et des matières premières. L'Algérie propose une initiative pour sortir de la crise au Niger, la création d'une période de transition de 6 mois dirigée par un civil, a déclaré aujourd'hui le ministre algérien des Affaires étrangères. Dans le cadre de son initiative, l'Algérie cherche à organiser une conférence des Nations Unies pour établir l'ordre constitutionnel, proposer des garanties à toutes les parties et accueillir une conférence sur le développement de la région du Sahel, a dit le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf, qui s'est rendu dans plusieurs pays ouest-africains, a déclaré que la plupart de ses interlocuteurs s'étaient montrés opposés à une intervention militaire au Niger. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, est en visite en Égypte, son grand allié pour son premier voyage à l'étranger depuis le début du conflit. Les précisions avec Dili Diko.
Le président Abdel Fattah al-Sissi a accueilli le général Burhan à sa descente d'avion à El Alamein sur la côte nord de l'Égypte avant leur discussion. Monsieur Sissi a confirmé la position ferme de l'Égypte aux côtés du Soudan et son soutien à sa sécurité, sa stabilité et son intégrité territoriale, selon le quotidien d'État Al-Ahram. En embarquant dans un avion à Port-Soudan, sur la mer Rouge, le chef de l'armée soudanaise est apparu pour la première fois en costume civil depuis le début du conflit, le 15 avril. Les affrontements ont fait au moins 5000 morts, un bilan très sous-estimé en raison du chaos général. Aujourd'hui, un médecin et des témoins ont affirmé qu'au moins 39 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont péri à Niala, chef-lieu du Darfour Sud, tués par des roquettes tombées sur leur maison lors de combats entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo.
Les combats entre l'armée éthiopienne et les miliciens dans la région Amhara ont fait au moins 183 morts. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a fourni ce bilan de ce conflit qui dure depuis un mois. Alexandrine Ollognon.
Plus d'un millier de personnes ont été arrêtées dans tout le pays, dont de nombreux jeunes d'origine Amhara, dans le cadre de l'état d'urgence décrété par le gouvernement, selon un communiqué du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. À la suite d'une recrudescence des affrontements entre l'armée éthiopienne et la milice régionale Fano et de la déclaration de l'état d'urgence le 4 août, la situation s'est considérablement aggravée selon Marta Hurtado du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. L'ONU appelle tous les acteurs à mettre fin aux meurtres, violations et d'autres abus. Les tensions en région Amhara sont allées croissantes depuis que le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé vouloir démanteler les forces spéciales des unités paramilitaires créées depuis une quinzaine d'années par de nombreux États de la Fédération éthiopienne. Les nationalistes Amhara estiment que le gouvernement veut affaiblir leur région alors que les forces spéciales Amhara et la milice Fano ont été des alliés cruciaux du gouvernement durant la guerre dans la région voisine du Tigré.
L'opposition au Zimbabwe a réclamé aujourd'hui la tenue d'une nouvelle élection présidentielle et s'est réservé le droit de saisir la justice après un scrutin jugé chaotique et nul qui a officiellement donné un second mandat au président Emmerson Mnangagwa. Washington a condamné lundi le parti pris systématique contre l'opposition pendant la campagne marquée par des meetings interdits et des opposants arrêtés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La tempête tropicale Idalia s'est transformée en un ouragan qui devrait s'intensifier pour devenir extrêmement dangereux avant de toucher terre demain en Floride, a annoncé le Centre national des ouragans américains. Les précisions avec John Lydon.
Un ouragan majeur est une classification réservée à ceux qui dépassent la catégorie 3 sur l'échelle Saffir-Simpson, qui en compte 5 au total. Ils sont susceptibles de provoquer des destructions dévastatrices et catastrophiques, selon le Centre national des ouragans américains. Des phénomènes de submersion côtière potentiellement mortels et des vents dangereux sont de plus en plus probables pour certaines parties de la Floride, a averti le centre de prévision. Des inondations soudaines et urbaines pourraient toucher des parties de la Floride et du sud de la Géorgie mercredi. Les inondations pourraient atteindre certaines régions de la Caroline du Sud de mercredi à jeudi.
Les États-Unis et la Chine ont affirmé aujourd'hui leur volonté de renforcer leurs liens économiques et commerciaux malgré leur rivalité à l'occasion de la visite de la secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo à Pékin où elle a été reçue par le premier ministre Li Qiang. Gina Raimondo a estimé lors de cette rencontre que les États-Unis et la Chine doivent faire plus ensemble face aux problèmes de la planète. Lundi, au premier jour de sa visite, les États-Unis et la Chine ont convenu de mettre en place un nouveau groupe de travail formel consacré aux questions commerciales et d'échanger des informations sur le contrôle des exportations. Evgeny Prigojine, chef du groupe paramilitaire russe Wagner, a été enterré lors d'une cérémonie privée dans un cimetière de la périphérie de Saint-Pétersbourg, a annoncé aujourd'hui son service de presse. Evgeny Prigojine, qui avait dirigé en juin une brève rébellion contre le commandement militaire russe, est mort mercredi avec plusieurs de ses proches dans la chute de son avion qui l'amenait de Moscou à Saint-Pétersbourg. Et puis l'UNICEF s'est inquiété ce mardi d'une perte d'apprentissage généralisée chez les enfants d'Ukraine où plus de 1300 écoles ont été détruites depuis le début de l'invasion russe en février 2022 et d'autres ont été endommagées selon des données rassemblées par l'UNICEF. Environ la moitié des enseignants signalent une baisse des connaissances de leurs élèves en langue ukrainienne, en lecture ou en mathématiques. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec John Lyndon.
Le Malawi est en bonne voie pour restructurer sa dette extérieure de 1,2 milliard de dollars pour la ramener à des niveaux soutenables selon la Banque centrale du pays. L'agence Ecofin rapporte que la Reserve Bank of Malawi précise que la majeure partie de la dette extérieure du pays, soit 800 millions de dollars, a été contractée auprès de la Banque africaine d'import-export. La croissance de l'économie nigériane s'est limitée à 2,51% au deuxième trimestre contre 3,4% durant la même période de 2002, a annoncé le Bureau national des statistiques. L'agence Ecofin souligne que le secteur des services a été le principal moteur de la croissance entre le 1er avril et le 30 juin, puisqu'il a enregistré une progression de 4,42% et contribué à hauteur de 58,42% au PIB global. Kristalina Georgieva, la patronne du Fonds monétaire international, entame mercredi par la Chine une tournée asiatique qui la conduira en Indonésie et en Inde. Lors d'une visite en Chine en mars, la patronne du FMI avait salué la forte contribution de la Chine à la croissance mondiale en 2023, exhortant toutefois Pékin à rééquilibrer son économie vers la consommation. Le FMI prévoit une hausse de 5,2% du PIB de la Chine cette année.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
L'Égypte sauve l'honneur au mondial de basketball.
Oui, après avoir perdu leurs deux premiers matchs, les Égyptiens se sont imposés lors de leur dernière rencontre de groupe devant le Mexique, 100 à 92. Les Égyptiens conservent la troisième place du groupe D. Défaite par contre pour les Angolais 75 à 67 face à la République dominicaine. Hier, le Soudan du Sud a battu la Chine 89 à 69. Les Sud-Soudanais restent troisième de leur poule B. Derrière Porto Rico et la Serbie, ils devront tout donner contre les Serbes demain mercredi pour espérer voir le tour suivant. Victoire également pour le Cap-Vert 81 à 75 devant le Venezuela. Les Cap-Verdiens sont aussi troisième de leur poule et affronteront la Slovénie ce mercredi lors de leur dernier match de groupe. La Côte d'Ivoire a disposé de l'Iran 71 à 69. Les Ivoiriens sont troisième de la poule G avant leur dernière rencontre de groupe contre le Brésil demain. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour suivant. L'équipe africaine la mieux classée dans cette Coupe du Monde arrachera son ticket pour les Jeux Olympiques de l'an prochain à Paris.
L'Espagne et les États-Unis sont qualifiés pour le tour suivant.
La tenante du titre, l'Espagne et les États-Unis se sont qualifiés pour le deuxième tour après leur succès respectivement contre le Brésil 96 à 78 et la Grèce 109 à 81. Ces deux candidats à la victoire finale rejoignent la Lituanie, le Monténégro, l'Allemagne, la Lettonie et le Canada. Ils sont même assurés de la première place de leur poule. Les Grecs jouent leur qualification mercredi dans un match à quitte ou double contre la Nouvelle-Zélande poussée en prolongation par la Jordanie.
Football libéré par Lyon, Youssouf Koné file en Belgique.
Le club français a annoncé avoir trouvé un accord pour résilier le contrat de son défenseur latéral malien. Youssouf Koné va s'engager avec Molenbeek en première division belge, club de la galaxie Eagle Football comme l'OL. Molenbeek est entraîné actuellement par le Brésilien Claudio Cassapa, ancien capitaine et entraîneur adjoint de l'OL. Koné, 28 ans, avait été transféré de Lille vers l'Olympique Lyonnais à l'été 2019 pour 9 millions d'euros et un contrat de 5 ans qui arrivait à terme le 30 juin 2024. Avec Lyon, il n'a disputé que 15 rencontres, dont 11 en Ligue 1.
Tennis, Selim Masfa accuse de viol son ancien entraîneur.
Cette ancienne joueuse de tennis tunisienne affirme dans un long entretien au quotidien sportif L'Équipe qu'elle a subi pendant pratiquement 3 ans des viols à partir de l'âge de 12 ans et demi de son entraîneur Régis de Cameret. Ce dernier a été condamné en 2014 à 10 ans de prison pour des viols aggravés sur deux anciennes élèves mineures, 26 autres anciennes joueuses, dont l'ex numéro 2 du tennis français Isabelle Demongo, ont témoigné d'agressions sexuelles et de viols des faits prescrits. J'ai mis 25 ans à me l'avouer, 35 ans à le dire publiquement. Respect à Isabelle Demongo et toutes les femmes qui ont parlé, ajoute Selim Asfa, aujourd'hui âgée de 46 ans.
Page de sport, VOA Afrique, signé Yacouba Ouédraogo.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président français Emmanuel Macron a défendu hier l'intransigeance de Paris vis-à-vis des militaires au pouvoir au Niger. Vendredi, les militaires nigériens ont donné 48 heures à l'ambassadeur français Sylvain Ité pour quitter le pays, ce que Paris a refusé, soutenant que le gouvernement des militaires est illégitime et n'a aucune autorité pour formuler une telle requête. Yacouba Ouedraogo a joint ici à Washington DC Omar Haruna, ancien ambassadeur du Bénin aux États-Unis.
Moi, je crois que cette posture de la France est symptomatique même de la crise entre la France et les populations africaines et les États africains du Sahel, qui voient la France comme une puissance dominatrice avec des velléités néocoloniales. Donc, dans ce contexte, moi, je crois que la diplomatie et les règles diplomatiques sont claires. Il y a certaines règles qui se basent essentiellement sur le respect des nations, des États, de leur intégrité. Il y a celles qui se basent sur la réciprocité. Et je trouve que la posture de la France, dans ce contexte, renforce la perception négative qui s'est créée depuis certaines années dans la région. Pour les conséquences de cette dépendra essentiellement de la réponse que les Nigériens ou bien le gouvernement actuel au Niger va faire.
Est-ce que les militaires au pouvoir à Niamey disposent de moyens, de contraintes pour amener l'ambassadeur à quitter le territoire nigérien sur le plan diplomatique?
De manière de contrainte, non, parce qu'il faut dire que l'ambassadeur de la France au Niger est un territoire souverain. Et comme toute autre ambassade, dans ces conditions, ils ne peuvent pas entrer dans l'ambassade parce que ça sera une violation d'un territoire souverain. Mais par contre, moi, je crois qu'il est de l'intérêt des Français de retirer leur ambassadeur pour le moment, peut-être garder un chargé d'affaires et essayer de revoir l'approche avec les Nigériens. Ce qui est sûr, c'est une façon de dire qu'on ne reconnaît pas ces autorités. Donc, ça sous-entend que, bon, ils sont toujours dans la posture qui était leur première posture au lendemain du coup Bush.
On sait qu'au Burkina Faso et au Mali, les militaires au pouvoir avaient demandé que les différents ambassadeurs français dans ces pays-là quittent et ces ambassadeurs sont partis. Pourquoi au Niger, ça coince?
Non, mais il faut dire qu'au Mali et au Burkina Faso, ils n'ont pas eu cette expérience. Je suis sûr que ces deux expériences au Mali et au Burkina Faso les ont édifiées sur les coûts. Et quand je parle de coûts, je ne parle pas seulement des coûts financiers, mais je parle de coûts au niveau de la perception, de la réputation et de la grandeur de la France. Ils ont eu le temps peut-être d'analyser ce facteur et ils se disent qu'ils ont pris des coûts assez énormes dans ces retraits-là et que le faire au Niger, ça va renforcer leur faiblesse. Donc, ils ont plus, comme on dit, de donner parce que ça fait la deuxième fois qu'ils se sont retirés d'un pays africain. Donc, ils savent exactement les conséquences pour la France. C'est un peu ça, mais aussi, c'est pour notifier au reste du monde que ici, c'est notre dernier roi et on ne va pas appliquer. C'est la même posture d'une manière ou d'une autre que certains États de la CEDEAO sont en train de prendre. C'est pour montrer que ça, il y a une ligne rouge à ne pas dépasser, alors que moi, je trouve que c'est une erreur.
Omar Haruna, ancien ambassadeur du Bénin à Washington.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h/24.
Au Nigeria, le président Ahmed Bola Tinubu a tenu lundi son premier conseil des ministres, 3 mois après son investiture. Les critiques se multiplient quant au nombre élevé des membres du gouvernement fédéral. 48 ministres, c'est une première au moment où le pays fait face à de nombreux problèmes économiques. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
45 ministres sur les 48 du gouvernement ont été réunis dans la grande salle de conférence de la villa présidentielle d'Abuja. C'était le premier face-à-face entre le président Bola Ahmed Tinubu et ses nouveaux ministres. Il en a profité pour souligner l'importance de la mission et les attentes des Nigériens.
Être nommé ministre, c'est être appelé un serviteur du peuple, pour le peuple et à propos du peuple. Les Nigériens attendent beaucoup de nous tous.
Ce qui a marqué immédiatement, c'est qu'il s'agit du plus grand cabinet depuis le retour du Nigeria en régime civil en 1999. Beaucoup de Nigériens estiment que la taille de cette équipe aura des conséquences.
Le président est fully aware Le président en est pleinement conscient et la Constitution est notre guide. Est-ce que cela va à l'encontre de la Constitution? Ils disent aussi que chaque État doit avoir un ministre et il y a des ministères plus importants qu'un seul ministre ne peut pas gérer. Nous attendons de voir les résultats. Pour moi, le cabinet n'est pas trop.
Olusegun Obasanjo a commencé en 1999 avec un cabinet de 42 ministres qu'il a ensuite réduit à 27, puis 30 au moment où il a quitté ses fonctions en 2007. Le feu président Omar Moussa Yar Addo en 2007 avait un cabinet de 39 ministres. Le président Goodluck Jonathan a nommé 33 ministres entre 2011 et 2014, puis de 37 juste avant les élections générales. En 2015, le président Muhammadu Buhari a nommé 36 ministres, puis ce nombre est passé à 42 en 2019.
Nous avons vu les noms et les personnes sur cette liste. Peu d'entre elles sont qualifiées et d'autres se basent sur des récompenses politiques qui normalement, en tant qu'un gouvernement qui veut travailler pour le peuple, qui a les gens à cœur, aurait dû considérer le mérite avant les compensations politiques. Si vous voulez récompenser les gens pour ce qu'ils ont fait pour vous, il existe d'autres moyens.
Certains experts conseillent de réduire de toute urgence le coût élevé de la gouvernance en réduisant le nombre de ministres. Pour eux, si M. Bola Tinubu veut faire des progrès dans la gestion de l'économie nationale, il devra réduire le coût d'une gouvernance qui coûte trop cher à la plus grande économie d'Afrique. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Togo, la gestion des déchets solides préoccupe les autorités municipales de Lomé, la capitale. Malgré de multiples projets mis en œuvre depuis une dizaine d'années, les méthodes de gestion adoptées peinent à porter leurs fruits. Pour une meilleure efficacité, le tri des déchets au niveau des ménages est envisagé. De Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
Depuis plus d'une quinzaine d'années, des milliards de francs CFA sont dépensés pour la salubrité publique de la ville de Lomé. Selon Kodjo Enumoji, coordonnateur du projet Environnement Urbain, la capitale togolaise produit autour de 300 000 tonnes de toutes sortes de déchets chaque année et peut-être plus.
Il faut reconnaître que dans nos villes, il est difficile de faire la distinction entre les déchets ménagers et les déchets de l'artisanat et consorts. Ce qui fait que d'autres études vous diront même qu'on produit jusqu'à à près de 400 et quelques mille tonnes de déchets par an.
Au district autonome du Grand Lomé, on cherche de meilleures voies et méthodes pour améliorer les pratiques de gestion des déchets solides. Tagba Atafeinam Chalim, le secrétaire général par intérim du district autonome du Grand Lomé.
La gestion des déchets terrestres ces dernières décennies est un enjeu socio-économique et environnemental majeur où la problématique est accentuée par un essor démographique et un processus d'urbanisation sans précédent. La perspective est alarmante, d'où l'urgence de réfléchir à instaurer un meilleur modèle de gestion pour le maintien d'un cadre de vie sain et propre.
Le district autonome de Lomé pense au tri préalable des déchets dans les ménages. Des initiatives privées essayent la méthode sur le terrain. Avec son ONG Miawodo, Joël Komran Agbetosu tente, tant bien que mal, de sensibiliser la population d'adopter ce comportement.
C'est pas du tout facile parce que d'abord, avant d'arriver à la collecte, il faut sensibiliser énormément la population avant qu'elle puisse adopter le tri des déchets. Aussi, les tris ne sont pas bien faits souvent. Donc, il y a encore des travaux de tri qu'on fait pour qu'on puisse avoir les déchets vraiment 100% recyclables.
Bema Gado est le responsable de l'ONG Stab Togo et promoteur de la start-up GIP Togo, spécialisée dans la collecte, le tri et le recyclage des déchets. Lauréat d'un prix international de 1 million de livres sterling pour sa méthode, il veut dupliquer son expérience dans tout le pays.
Déjà à Takwame, il y a une unité pilote qui est fonctionnelle. Ensuite, nous avons démarré la construction d'un centre de valorisation à Kara qui sera opérationnel avant la fin de cette année. Il y a une autre unité industrielle qui va être amorcée très bientôt
à Thiviers. Notre ambition, c'est de pouvoir véritablement professionnaliser la stratégie de gestion des déchets au Togo.
En attendant, les autorités municipales s'investissent dans la sensibilisation pour un changement de comportement de la population. À cet effet, un projet d'environ 100 millions de francs CFA vient d'être lancé pour une durée de 12 mois. Kossi Wousou, Lomé, pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, va-t-on vers une saison électorale inédite aux États-Unis? L'ancien président Donald Trump, poursuivi dans 4 affaires judiciaires distinctes, caracole en tête des sondages pour l'investiture républicaine. Ceci alors qu'il sera jugé à Washington à partir de mars 2024 en pleine campagne électorale. Pendant ce temps, les autres candidats républicains ont tenu leur premier débat télévisé sans le favori Trump, alors que le président Biden tente de se focaliser sur son agenda économique. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Ici aux États-Unis, un juge fédéral a fixé au 4 mars 2024 le procès de l'ancien président Donald Trump, accusé d'avoir comploté pour renverser les résultats de la présidentielle de 2020. Ce procès historique va se dérouler en pleine campagne électorale, M. Trump étant le favori des candidats républicains. Cindy Sen, correspondante diplomatique de la VOA, fait le point. Récit Yakuba Ouedraogo.
Les avocats de Donald Trump étaient de retour à Washington lundi pour une audience qui a fixé au 4 mars 2024 la date de son procès en lien avec sa tentative présumée d'empêcher le transfert pacifique du pouvoir au Capitole le 6 janvier 2021. Les avocats de l'ancien président n'ont fait aucun commentaire à la VOA, mais ont fait part de leur déception au juge. Ils ont demandé de reporter le procès à avril 2026, après l'élection présidentielle de novembre 2024. L'accusation souhaitait que la procédure commence le 2 janvier et que la sélection du jury ait lieu en décembre. Un expert a déclaré à la VOA qu'il pense que la juge Tania Tutkan a pris une décision judicieuse. Alan Lichman, historien de la présidence à l'American University, a parlé à la VOA via Zoom.
Elle a fait valoir de très bons arguments que le public a vraiment besoin de savoir d'une manière ou d'une autre avant cette élection si Trump est coupable de ces accusations très sérieuses.
Un grand jury composé de citoyens de Washington a voté l'inculpation de M. Trump pour 4 chefs d'accusation dans cette affaire, notamment pour conspiration en vue de frauder et pour conspiration en vue de faire obstruction à une procédure officielle. Il a plaidé non coupable et a affirmé à plusieurs reprises, sans preuve, que ces accusations sont motivées par des considérations politiques.
Comment mon adversaire politique corrompu, Joe Biden, peut-il me faire passer un jugement au cours d'une campagne électorale que je remporte largement, mais qui m'oblige néanmoins à passer du temps et à dépenser de l'argent loin de la campagne pour lutter contre des accusations et des charges bidons inventées de toutes pièces?
M. Trump a déclaré que les inculpations ne font que renforcer son soutien auprès des électeurs. Mais l'un de ses adversaires républicains, l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Asa Hutchinson, n'est pas de cet avis et affirme qu'il n'y a aucune chance que Trump remporte une élection générale.
Les électeurs républicains doivent comprendre que nous ne pouvons pas gagner avec Donald Trump. Et c'est pourquoi j'ai abordé la question de manière très directe.
Selon l'historien de la présidence, Alan Lichman, bon nombre des actions du 6 janvier se sont déroulées au vu et au su de tout le monde, ce qui rend Trump vulnérable à une éventuelle condamnation avant les élections présidentielles de novembre 2024.
Et si Donald Trump était en prison, ce qui n'est pas impossible non plus, techniquement, il pourrait toujours se présenter. Mais les républicains voudraient-ils vraiment avoir en tête de liste un homme qui a été condamné pour avoir subverti notre démocratie?
Trump est le premier ancien président américain à faire l'objet de poursuites pénales. S'il est reconnu coupable, il pourrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Il fait aussi l'objet de poursuites à New York, en Géorgie et en Floride.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Villon à ce micro, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.